RFI Midi, Alexis Guilleux.
Le G7 s'ouvre demain à Hiroshima au Japon, mais on s'intéresse aujourd'hui à un autre rendez-vous diplomatique. Le premier sommet Chine-Asie centrale qui se tient aujourd'hui et demain à Xi'an, la ville et l'ancienne capitale impériale de la Chine. Bonjour Didier Chaudet.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, spécialiste de l'Asie centrale post-soviétique. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan, les chefs de ces États ont été conviés à Xi'an par Xi Jinping. Alors, que représente cette région pour la Chine ?
Cette région pour la Chine est aussi importante que les régions qu'on évoque le plus souvent quand on parle des intérêts vitaux chinois, la mer de Chine méridionale, Taïwan, la relation avec certains pays d'Asie du Sud, la situation frontalière notamment entre Inde et Chine. On a tendance à oublier l'importance de l'Asie centrale, tout simplement parce qu'on continue dans notre vision eurocentrée de voir les régions du monde, de considérer l'Asie centrale comme forcément rattaché à la Russie, alors que même avant la guerre en Ukraine, économiquement, la Chine était beaucoup plus importante pour l'Asie centrale que pour la Russie. Après la guerre en Ukraine, la Chine est plus importante pour l'Asie centrale que la Russie, tout court.
Mais ce sont quand même des États qui sont historiquement liés à Moscou, des anciennes républiques soviétiques. Que cherche à faire la Chine ici ?
En fait, elle cherche à tout simplement consolider des choses qui ont été construites dans le temps. Certes, historiquement, il y avait un lien avec la Russie. Le lien est toujours là, le lien n'a pas totalement disparu. Mais aujourd'hui, le principal acteur économique en Asie centrale, c'est la Chine, le pays qui semble le plus intéressant d'un point de vue politique, géopolitique et même sécuritaire de plus en plus pour l'Asie centrale. Maintenant, on peut dire que c'est la Chine. La Chine n'a pas de problème frontalier particulier avec l'Asie centrale. La Chine ne dit pas vouloir réunir des territoires centra-asiatiques à la Chine comme la Russie a pu le faire par rapport au nord du Kazakhstan. En tout cas, certains proches de Poutine ont pu évoquer qu'après l'Ukraine, ça serait le Kazakhstan. En général, la Chine est plus rassurante aujourd'hui que la Russie. Et la Chine apporte beaucoup plus financièrement, et on va le voir lors de ces deux prochains jours. Encore une fois, il va s'agir de développer les liens économiques, de développer les liens en termes d'infrastructures, de faire avancer véritablement la Chine dans un environnement qui est de plus en plus dominé par la Chine, faire avancer l'Asie centrale dans l'environnement chinois.
Alors justement, quel est l'objectif concret de ce sommet ? Est-ce qu'il y a des annonces qui sont attendues et dans quel domaine ?
On attend au moins l'annonce d'une vingtaine de grands projets économiques. On attend peut-être le fait de développer plus de commerce en renminbi et en monnaie locale. On attend aussi un certain nombre de choses qui vont se passer plutôt en off et qui viseront à mettre en avant le profil de la Chine, non seulement comme partenaire économique, mais comme partenaire qui peut traiter d'un certain nombre de dossiers sensibles, notamment l'Afghanistan, qu'on a eu tendance à oublier en Occident, mais qui compte énormément pour la sécurité centra-asiatique.
Alors c'est crucial pour la Chine et pour le président Xi Jinping également. Est-ce qu'il cherche là à renforcer d'une certaine manière sa stature internationale ?
En fait, il cherche vraiment à confirmer quelque chose sur lequel ils ont travaillé depuis un certain temps maintenant. Le rapprochement avec les pays d'Asie centrale s'est fait continuellement depuis la fin de la Première Guerre froide. Mais en fait, depuis ces dernières années, on se rend compte que la Chine investit beaucoup, même en termes de capital symbolique, sur l'Asie centrale. La première fois que on voit le président Xi se déplacer à l'étranger en personne après le post-Covid, c'est d'abord au Kazakhstan, ensuite en Ouzbékistan pour la grande réunion des chefs de gouvernement de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc il y a véritablement un désir de traiter cette zone comme une zone à part, importante pour les intérêts nationaux de la Chine. On est bien au-delà de la vision uniquement post-soviétique de l'Asie centrale.
Alors, c'est un sommet qui débute la veille du G7 au Japon. On imagine que la date a été, elle aussi, bien choisie. Est-ce que la Chine s'adresse aussi aux membres du G7? Et si oui, quel message envoie-t-elle?
Je pense qu'on a surévalué ce point-là. C'est quelque chose qui a été mis en avant par par de grands journaux internationaux, notamment Bloomberg. Mais en fait, on est plus dans la continuation de réunions récentes. Il y a eu la quatrième réunion des ministres des Affaires étrangères chinois et centra-asiatiques, puis la première réunion des ministres du commerce et de l'économie chinois et centra-asiatique le mois dernier. Donc en fait, on est vraiment dans la continuation de quelque chose. On considère qu'il y a un message qui est lancé, mais le message il est lancé dans les deux sens. Parce que la réunion qui a lieu du côté du G7, c'est quand même une réunion qui veut dire clairement que la Chine est un compétiteur qu'il va falloir gérer du côté occidental. Donc en fait, si on voit un message derrière tout ça, c'est tout simplement parce qu'il y a une réalité aujourd'hui, une compétition extrêmement forte entre les États-Unis et la Chine, et chacun des pays, des autres pays, est appelé à choisir un camp. Le camp occidental se construit de façon assez claire, mais vous avez un certain nombre de pays de taille moyenne ou de grande influence régionale, locale, mais pas forcément si important que ça au niveau international, qui vont être mobilisés. Le but du G7, c'est de se préparer à faire une série d'offres à ce type de pays, notamment
et
le
offrir,
Kazakhstan, mais aussi le Brésil.
Et offrir une compétition, une poursuite de cette compétition avec la Chine. Merci Didier Chaudet, vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, spécialiste justement de cette zone post-Asie centrale post-soviétique.